Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette émission Parole au présent, au microphone Claude Julien. Mon invité ce matin, c'est Francine Robert. Francine, qui est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour, Francine.
Bonjour, Claude.
Et on se retrouve donc ensemble pour ce cinquième dimanche de Carême. Et exceptionnellement, nous quittons notre cher Luc, n'est-ce pas, pour aller faire une incursion dans l'Évangile de Jean. Mais déjà, ça, on ouvre des portes, là, pour, car les dimanches après Pâques, je pense que la majorité des dimanches, nous allons être en compagnie de l'Évangile de Jean. Alors, dites-moi, Francine, donc ce récit d'aujourd'hui qui porte sur la femme adultère, où on va demander à Jésus de prononcer une sentence.
Oui.
Bon, j'aimerais ça vous entendre sur le fait que cet évangile, enfin ce passage d'évangile, on a hésité avant de le placer dans le corpus de, de l'évangile de Jean.
Effectivement, on n'étant ni vous ni moi, bien sûr, mais effectivement, on est dans l'évangile de Jean. Mais on est un peu dans l'univers mental de Luc quand même, parce que le style de ce récit, son vocabulaire, ne ressemble pas beaucoup à l'évangile de Jean. Il ressemble beaucoup plus à celui de Luc. Et surtout, c'est un récit qui met en scène le thème de la miséricorde de Dieu qui est révélé en Jésus par sa parole, sa pratique. Et ce thème appartient beaucoup plus à l'ouvrage de Luc qu'à celui de Jean. On peut penser, par exemple, aux paraboles des deux derniers dimanches, la patience du vigneron envers le figuier stérile il y a deux semaines, la joie pleine de compassion du père qui retrouve son fils. Alors, on est un peu dans le monde mental de Luc, même si nous sommes dans le livre de Jean. D'ailleurs, les spécialistes sont assez unanimes. Ce récit n'a pas été écrit par l'auteur de l'Évangile de Jean. Ça ne lui ressemble pas du tout. Donc, ni au plan du style, ni pour le vocabulaire. Ça a été ajouté après coup. Et ce qui est bien, c'est que ce récit, on est chanceux de l'avoir. C'est un rescapé qui aurait très bien pu être perdu parce qu'il est absent de beaucoup de manuscrits anciens. Donc, les copies anciennes du Nouveau Testament en grec ne contiennent pas tout ce récit. Toutes nos Bibles aujourd'hui le contiennent, on se comprend bien. Il est au chapitre 8 de Jean. Mais dans les manuscrits anciens, il est souvent absent et là où il est présent, curieusement, dans certains manuscrits, il est à la fin de l'évangile de Jean et non pas au chapitre 8. Dans d'autres manuscrits, il est dans l'évangile de Luc, quelque part au chapitre 21, ou encore il est à la fin de l'évangile de Luc. Au fond, c'est comme si les gens avaient sauvé ce texte sans savoir où il allait. C'est comme si ce récit n'avait pas trouvé sa place dans la transmission organisée.
Mais on tenait à le conserver.
Oui, en
c'est
tout cas,
ça, on sait pas trop où le placer. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a peut-être il fait un petit peu scandale et il y a des copistes qui étaient peut-être gênés de le copier. Enfin,
En tout cas, l'hypothèse du père Boismort, hein. Au fond, un récit qui met en scène le pardon accordé à une femme adultère, ça a peut-être posé des problèmes dans certaines églises. Alors, bénissons les scribes et les copistes qui, problème ou non, ont décidé de sauvegarder quand même ce récit pour la postérité. C'est amusant, amusant peut-être pas tant que ça, de voir que, c'est ce que je disais la semaine dernière, hein, y a des gens qu'on n'aimerait pas nous voir à la table avec Jésus et pourtant on accueille sans problème les récits où Jésus annonce le pardon et fréquente les pécheurs. Alors dans les églises anciennes, il y a aussi des sortes de pécheurs pour qui on trouvait que le pardon était peut-être pas une bonne idée finalement. Ça concernait les femmes, faudrait voir qui ça concerne aujourd'hui dans notre esprit à chacun.
Bon, ben, vous nous avez donné le goût d'y plonger.
Allons-y. Hein?
Alors, j'en fais lecture selon la traduction du lectionnaire, quoi. Hein? Donc, c'est au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Alors, Francine, je vous propose, comme selon notre bonne habitude, de situer le texte dans le contexte de l'Évangile de Jean.
Oui, parce que il a été bien placé au bon endroit, je trouve. Bon, si on ne prend que le récit, le début nous paraît tout à fait positif, gratifiant même pour Jésus. Tout le peuple vient à lui, l'écoute enseigner. Alors, on lit ça sous un œil bien disposé, détendu. La tentative de le piéger nous apparaît un peu comme une anecdote dont Jésus d'ailleurs se tire tout à fait brillamment. On apprécie son astuce, sa petite victoire. Voilà, ceux qui voulaient piéger Jésus sont eux-mêmes piégés par lui, et bien pris qu'ils croyaient prendre. Bon. Mais le contexte, en fait, dans lequel le récit est placé, est un contexte orageux et tout près de la violence ouverte. Dans le passage précédent, c'est le chapitre 7 de l'Évangile de Jean, tous les acteurs du récit, sauf la femme, ont déjà été situés. Hein. La foule, on la voit, elle est fascinée par Jésus. En même temps, elle est perplexe et elle est très divisée. On lirait presque un sondage d'opinion dans le chapitre 7 de Jean. C'est assez amusant. Il y aurait les pour, les contre et ceux qui savent pas pour qui... pas pour qui ils vont voter, pardon, mais ceux qui ne savent pas quel jugement ils vont porter. Voilà, ça m'a échappé. Et par contre, l'opinion des chefs religieux, elle, est présentée très clairement au chapitre 7. Vers la fin, les versets 40 à 52, ils sont décidés à arrêter Jésus. Ils trouvent que Jésus abuse de l'ignorance des gens simples. Ces gens, d'ailleurs, sont qualifiés par les pharisiens comme des gens qui ne connaissent pas la loi. Donc, finalement, la foule est disqualifiée d'avance. Et ce contexte de débat autour de Jésus éclaire le projet des pharisiens. Hein. Ce qu'ils veulent faire, c'est forcer Jésus à se fourvoyer publiquement pour que la foule se fasse enfin une idée, et selon eux, la bonne idée, c'est-à-dire la foule soit contre Jésus. Alors, ils vont déployer une sorte de stratégie pour pouvoir l'accuser, dit bien le récit. Ils proposent un cas, et devant ce cas, Jésus devra contredire soit Moïse, soit lui-même, et lui-même dans ses attitudes habituelles d'ouverture envers tout le monde, ou si on était dans le langage de Luc, son attitude d'accueil des pécheurs. Hein? D'une façon ou d'une autre, Jésus va affaiblir sa crédibilité. S'il est contre Moïse, ça affaiblit sérieusement. S'il se contredit en la condamnant, ça affaiblit quand même pas mal.
En fait, Francine, Robert, si je vous comprends bien là, si je vous suis, c'est pas la femme qui est en procès.
Pas du tout.
Mais c'est Jésus, finalement.
C'est ça. La femme, au fond, tient lieu d'objets théoriques, et en termes narratifs, la femme symboliquement tient lieu de Jésus. C'est-à-dire, c'est son procès à lui, c'est lui qui est l'accusé, c'est lui qu'on veut juger, c'est lui qu'on voudra mettre à mort, précisément, c'est lui qu'on voudra lapider dans l'évangile de Jean. Le chapitre 10, verset 31, et encore à 11-8, on parle de lapider Jésus. C'est le seul endroit, d'ailleurs, dans les évangiles où il est question de ça. Donc, on voit que c'est pas la femme qui importe aux accusateurs, finalement. Elle n'est que l'outil, l'objet du débat, un cas théorique plus que réel. La mort qui est en jeu, c'est la mort de Jésus. C'est ça qui est l'enjeu. Alors, vous voyez, ça nous donne un contexte de violence, hein, latente. C'est sûr que les gens vont pas arriver les poings fermés pour frapper Jésus, mais la violence, elle est latente dès le début du récit. Et donc, ça devrait peut-être nous prémunir contre notre petit sentiment de triomphe devant une pseudo-victoire de Jésus, qui réussit à humilier publiquement ses adversaires. Ce qui est en jeu, c'est plus qu'un petit rapport de force entre plus brillants les uns que les autres. Là.
Bon, on va regarder le prétexte.
Oui. Alors, cette femme, quand même, on va pas nous la traiter uniquement comme prétexte, on va lui donner un peu de place.
Ouais.
Donc, elle est amenée là, placée au milieu, dit le texte grec, comme un objet. Elle est amenée, elle n'est pas sujet de l'action et elle ne parle pas non plus. Son cas est clair, l'adultère, Lévitique 20-10, si ça vous intéresse, aussi Deutéronome 22-22, c'est donc dans la Torah, les deux partenaires d'un adultère seront mis à mort. On nous dit que la femme est surprise en adultère, on peut se demander où est passé le type avec qui elle était, on l'a amenée toute seule. Mais au fond, ça importe peu aux accusateurs de Jésus, puisque ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment juger les coupables d'adultère, mais coincer Jésus dans un débat de principe.
Et là, Jésus fait un geste qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est le cas de dire, il écrit. Il écrit sur le sol.
Effectivement.
Et on oublie que c'est un abaissement.
C'est ça. Il y a deux gestes et on a commenté abondamment le fait que Jésus trace des traits sur le sol. En se demandant qu'est-ce qu'il y avait bien pu écrire, mais finalement, on peut spéculer à l'infini, on n'en sait rien. Ce qu'on commente moins, c'est l'autre geste qui précède celui-là, Jésus se baisse. Ce geste-là est répété aussi dans le récit. C'est ce mouvement-là, moi, qui m'intéresse. Il me semble que quand on est dans une situation où des gens nous affrontent sans manifester ouvertement leur agression, simplement on sait qu'ils veulent agresser Jésus d'une manière ou d'une autre, quand on est devant des gens comme ça et qu'on s'accroupit par terre,
on les déstabilise, c'est le cas d'Adil.
Il me semble qu'il y a quelque chose, qui...
Quelque chose qui s'apparente au judo, là.
Qui casse, le rapport de force. En fait, ça casse le rapport de force. Il y a, si vous me permettez l'expression, un body language, là, chez Jésus.
Un langage du corps.
Oui,
le
langage corporel.
Littéralement, corporel,
c'est ça.
Ouais. Qui est très éloquent.
Il me semble, ne favorise pas du tout l'affrontement. Je sais pas comment ils ont ouvert des grands yeux pour voir ça. Ils viennent l'affronter, ils s'attendent à quelqu'un de fort et lui se baisse. Et je trouve que c'est un langage corporel très efficace pour répondre à des gens qui veulent agresser sans en avoir l'air. Puisque, du coup, dans un climat qui pourtant pourrait être violent, l'adversaire, qui est Jésus pour eux, est tout de suite moins menaçant. Et s'il leur faisait peur, voilà qu'il leur fait moins peur, seulement en s'abaissant. Et ce verbe, il se baissait, plus l'autre verbe, il écrivait sur le sol, les deux sont répétés deux fois, et à l'imparfait. C'est donc, ça. C'est une action qui dure dans le temps.
Hein, on est à l'imparfait. Ils appellent un imparfait de durée. Là.
C'est ça.
Ça dure. On ne sait pas combien de temps ça a duré.
On pourrait laisser porter le silence. Ouais. Il faut être fort pour laisser porter le silence. Et en même temps, c'est pas une force qui affronte. Ça donne à penser, mais c'est pas une force. C'est une force douce, hein, je dirais. Bien, entre ces deux abaissements, Jésus parle. Donc, il se relève une fois et ensuite, il va se rebaisser. Sa réponse, elle rappelle aussi un passage de la loi indirectement. C'est Deutéronome 17.6. La Torah dit avec sagesse que si ton témoignage contre quelqu'un amène une peine de mort, Donc, tu condamnes l'autre à être lapidé. Si c'est fondé sur ton témoignage, c'est toi qui dois lapider le premier. Il y a une certaine sagesse là-dedans. Parce que, après tout, dénoncer quelqu'un, c'est une chose, mais le tuer de sa propre main...
Dénoncer, c'est facile, mais passer à l'action, avec tes propres mains...
Appliquer la sentence et donc poser une vraie violence physique, pas juste une violence stratégique. C'est difficile. Ça implique. Alors, Jésus, donc, fait surgir par sa parole la réalité toute dure, toute crue de la violence physique. Il sort de la théorie. C'est plus un débat casuistique, c'est autre chose. C'est une vie en jeu, là. En plus, dans sa parole, Jésus a changé le critère. Non pas celui qui a dénoncé, qui doit tuer en premier, mais celui qui est sans péché. C'est-à-dire, finalement, celui pour qui la loi n'est pas une menace.
Et ce qui est radicalement neuf, là, ce que vous apportez, là.
Je pense que oui, enfin, de la part de Jésus.
On trouve pas ça dans l'Ancien, dans le Premier Testament.
Je me risquerais pas, j'ai le sentiment
c'est
que
pas,
non.
C'est pas une colle, là.
Mais il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Ouais. Je m'étonnerais pas de trouver ça quelque part chez un prophète, mais honnêtement, je n'en sais rien. C'est le même renversement, par contre, que dans le récit des morts brutales de Luc 13. Hein. Vous me parlez des péchés des autres, dit Jésus. Regardez donc les vôtres pour voir ce que ça donne.
C'est ça. L'évangile qu'on a eu il y a deux dimanches.
Il y a deux dimanches.
La tour qui s'est effondrée, puis Pilate qui a tué du monde, quoi.
C'est ça. Alors, vous, au fond, vous posez une question théorique sur Dieu qui punit les péchés des autres, mais on est dans le monde réel, vous aussi. Vous êtes en cause. Alors, voyez, du coup, cette parole de Jésus déloge ses adversaires du terrain impersonnel où il n'y a pas de « je ». Il y a « elle a fait ça », puis il y a « Moïse a dit ça ». Il n'y a pas de « je » dans une position comme celle des adversaires.
C'est les adversaires, finalement, qui se drapent dans la loi, si on peut dire.
Hein? Et qui sont supposément absents, objectifs, pas impliqués. C'est pas nous. C'est pas nous qui décidons. Alors, Jésus dit, en tout cas, vous décidez de la vie que vous menez et regardez. Et donc, cette vie que vous menez, si la loi peut décider de la vie et de la mort, suggère Jésus, ça veut dire que vous vivez vous-même sous cette menace, vous jouez vous-même votre vie et votre mort, et donc vous vivez vous-même dans la peur du jugement que Dieu pourrait porter sur vous. Et donc, à la limite, vous pourriez aussi bien mourir comme elle. Donc, vous voyez, personne n'est innocent. C'est une vision simpliste de marcher avec un système de jugement qui dit il y a les innocents, il y a les coupables. Dans le monde réel, personne n'est innocent.
Et d'ailleurs, ils vont partir l'un après l'autre, justement.
Oui, parce qu'ils vous sentent bien que ça n'est pas si simple.
Leur geste de sortie vient corroborer ce que vous dites.
Là. Je le pense, oui. Il y a cette prise de conscience que, effectivement, eux aussi tombent sous le coup du jugement de Dieu. Et ça rappelle bien la découverte que Paul a faite et qu'il mentionne dans la première lecture de ce même dimanche, de la deuxième lecture. Quand Paul dit, je reformule un peu, là, mais c'est pas par mon obéissance à la loi que je suis un juste. Hein. Ma justice, elle vient du Dieu que j'ai découvert dans ma foi au Christ, qui me sort finalement d'une logique étroite, innocent, coupable, jugé, condamné. Paul a découvert autre chose et ça a changé sa vie.
Bien. Donc, le geste de Jésus n'a rien à voir avec le désir d'humilier les pharisiens, comme malheureusement, trop souvent, on a dit ce qu'on a dit dans les homilies.
Oui, écoutez, je ne suis pas dans la tête de Jésus, j'ai tendance à lire ce texte, cette phrase de Jésus et cette stratégie de Jésus à la lumière de ce mouvement de Jésus qui se baisse. Et si c'est un mouvement qui a pour effet de dénouer la peur, de dénouer la menace, de dénouer le climat d'affrontement, il me semble qu'on peut lire la phrase de Jésus dans le même sens aussi. Il y a quelque chose qui soulage, peut-être que libérant est un mot trop fort, mais devant cet homme qui est abaissé alors qu'on le craint, il y a quelque chose qui soulage. Il me semble que sa parole aussi a quelque chose qui soulage. C'est-à-dire, si on sort du dilemme innocent-culpabilité, finalement, si on sort de cette image d'un Dieu qui est là tout le temps à peser et à menacer de mort, les pécheurs, il y a quelque chose qui soulage et à la limite, c'est libérant aussi. Donc, à mon avis, la parole de Jésus, on pourrait la comprendre dans la même direction que ce que son corps dit. C'est pas de la menace, c'est offrir un chemin qui dénoue ce qui est bloqué à l'intérieur de vous-même, au fond. Arrêtez d'enfermer la femme dans votre nœud de jugement et essayez de voir, vous êtes noué comme ça en vous aussi. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose qui offre là un chemin de libération. En fait, Jésus ne les juge pas. Pas plus qu'il ne juge la femme, vous voyez. Il ne juge personne, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, un petit peu plus loin au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Et par son silence et par son geste, son attitude abaissée, il me semble qu'il manifeste qu'il peut y avoir autre chose dans notre vie, dans notre relation à Dieu et dans notre rapport aux autres. Il peut y avoir autre chose que la logique étroite et dure et à la limite la logique étroite, violente du jugement. Alors, cette femme, ça va? Cette femme, Jésus va lui donner la parole. Elle était objet jusque-là. Et voici qu'il va s'adresser à elle et ce faisant, il la rend à son statut de sujet. Tout comme il a rendu les pharisiens et les scribes à leur statut de sujet. En tout cas, il les a interpellés comme sujet en les invitant à se demander, eux, s'ils étaient pécheurs eux-mêmes. Donc, il la convoque, elle aussi, comme un sujet qui est responsable de ses actes et non comme un objet de débat théorique. Elle est responsable de ses actes passés, il dit bien ne pêche plus, donc il reconnaît qu'elle a péché, et elle est responsable de ses actes à venir, va et ne pêche plus, comme une personne qui peut vivre, même si le jugement de Dieu existe, son chemin à elle n'est pas terminé. Tiens, je reviens à un de nos deux thèmes du carême, le thème du chemin. Mm-hmm. Ici, le verbe qui est là, c'est « faire route », comme on trouve très souvent chez Luc, hein. « Faire route et ne pêche plus ». Ainsi, Jésus manifeste que le Dieu qu'il révèle ne bloque pas la personne dans le nœud de la culpabilité, ne ferme pas devant la personne toute possibilité d'avenir, toute possibilité de relation, puisque le pardon ouvre devant cette femme-là un autre chemin qui est possible, un chemin dans la confiance que la relation à Dieu va continuer. Et donc, il y a là, chez elle, un appel à sa capacité de faire confiance à Dieu, mais il y a aussi, en Jésus, et je pense à travers lui en Dieu, la confiance mise en cette femme qui est capable d'autre chose que de cet acte pour lequel on aurait pu la condamner à mort. Et il me semble que dans cet ensemble-là d'attitudes de Jésus, à la fois donc le geste, le silence et la parole, il me semble que Jésus agit là dans un contexte qui était très violent, il agit sans mépris, sans agressivité, sans menace, sans jugement, mais avec une certaine douceur du corps, je dirais, et une certaine vérité à la fois de la parole et du corps. Il me semble qu'il agit bien comme Jean nous le désigne ailleurs, au chapitre 3, « Je suis envoyé non pour juger, mais pour sauver ».
Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal, à la technique Nikolaï Chouchkine, à la recherche musicale Marina Khouchinskaya, au microphone Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne, une bonne semaine aussi, et surtout, qui vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.